Et bonjour à toutes et à tous, curieux et curieuses, et bienvenue dans l'onde curieuse de ce jeudi 4 juin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, même si on ne s'en rend pas toujours compte, la manière dont on occupe l'espace public. Qui prend la place, qui se sent légitime pour rester, circuler, jouer, pratiquer un sport ou simplement s'installer quelque part? Et surtout, est-ce que femmes et hommes vivent vraiment les espaces de la même manière? À la médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas, une exposition présentée en ce moment pose justement cette question. Place aux femmes, les espaces publics ruraux ont-ils un sexe? Portée par le CAUE de l'Ardèche, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, elle est le fruit d'un travail mené avec des chercheuses, des artistes, des habitants et habitantes et des élus pour observer concrètement la place des femmes dans plusieurs espaces publics ruraux ardéchois. Et ce qui rend cette exposition particulièrement intéressante, c'est qu'elle part de lieux très proches de nous, le pump track de l'Alvade d'Ardèche, une cour d'école à Alba-la-Romaine ou encore les espaces publics de Saint-Julien-d'Intre. À travers des observations de terrain, des témoignages, des ateliers avec des enfants, des habitantes ou encore des analyses menées par des sociologues, géographes et architectes, elle interroge des choses très concrètes. Pourquoi les garçons occupent souvent le centre des cours de récréation? Pourquoi certaines filles désertent certains équipements sportifs? Et pourquoi les femmes restent davantage sur les bords, sur les bancs ou dans les rôles d'accompagnement? Une exposition qui ne cherche pas à donner des leçons, mais plutôt à observer, questionner et ouvrir la discussion autour de notre manière de construire et de partager les espaces du quotidien. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Séverine Mondino, chargée de projet de culturel au CAUE de l'Ardèche, qui sera également présente le 9 juin à la médiathèque pour une rencontre autour de cette exposition. Mais avant de parler de tout ça, d'abord le bonjour à Sylvain.
Salut.
Salut, salut. Et notre habituel agenda. Et si vous replongiez dans vos souvenirs d'adolescence? Ce soir, de 18h à 19h30, la librairie Ma Petite Bouquinerie à Joyeuse propose un atelier d'écriture créative autour de la mémoire et des souvenirs. À travers des exercices sensoriels et ludiques, les participants seront invités à retrouver le regard qu'ils portaient sur le monde depuis leur chambre d'adolescent. Aucun prérequis n'est nécessaire, chacun peut participer, même sans expérience de l'écriture. Le tarif est de 20€ et 15€ en tarif réduit. Les places sont limitées, donc réservées auprès de Ma Petite Bouquinerie. Le Pas de Côté ouvre sa scène pour une nouvelle soirée bœuf et jam session ce soir de 18h30 à 22h30. Guitare, violon, accordéon, percussion, chant ou tout autre instrument sont les bienvenus. Débutants comme musiciens confirmés pourront partager un moment d'improvisation et de convivialité dans une ambiance ouverte à tous. Le matériel, son et lumière est mis à disposition sur place. L'entrée est libre avec adhésion annuelle à partir de 3€. Bars et planches apéritives à base de produits locaux seront aussi proposés tout au long de la soirée. Parce qu'un accident peut arriver en quelques secondes, savoir réagir peut faire toute la différence. Demain, un atelier d'initiation au premier secours pour les nourrissons et les jeunes enfants est proposé à La Blachère. Destiné aux futurs parents, aux jeunes parents, ainsi qu'à toute personne souhaitant apprendre les gestes qui sauvent, il permettra d'aborder la prévention des accidents domestiques et les bons réflexes à adopter en cas d'urgence. Étouffement, brûlure, chute ou perte de conscience. Deux sessions sont prévues, donc de 10h à midi, donc demain, et de 14h à 16h. Cette dernière étant déjà complète, donc je vous conseille de vous inscrire et la participation est à prix libre à partir de 10€. Chanter, jouer, improviser et faire danser, c'est la proposition du groupe Pulcinella, invité au bal de La Baume en musique. Le quartet toulousain sera à retrouver à partir de 21h ce soir sur la place du Sabla pour une soirée gratuite ouverte à tous. Et avant cela, les chorales de Vallon-Pont d'Arc présenteront Devenir l'oiseau sur la plage à 19h, puis DJ Bonnie et Cloud proposeront un blind test sur vinyle à partir de 20h. L'exposition « L'humanimalité, l'animal en nous » débute aujourd'hui à la salle Grenette à Aubenas Et ce, jusqu'au 17 juin, l'artiste Olivier Deschamps y présente une série d'œuvres qui questionnent les liens entre l'être humain et le monde animal. À travers des figures hybrides, inspirées des mythes, des légendes et des croyances populaires, il s'intéresse à cette frontière parfois floue entre l'homme et l'animal, à la place qu'occupe encore l'animalité dans notre imaginaire. L'exposition est visible du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h, ainsi que les samedis et dimanches de 11h à 17h. L'entrée est libre. Le festival Chapeau Melon et Bottes de Cuir poursuit son itinérance en Ardèche avec une étape à l'Argentière ce soir. C'est à 20h, le lycée La Ségalière accueillera une représentation de Colérique, un spectacle proposé par la compagnie RSA. Mêlant théâtre et marionnettes, cette création s'intéresse à une émotion que tout le monde connaît, la colère. Qu'est-ce qui la provoque? Comment s'exprime-t-elle? Que dit-elle de nous? Et à travers différents personnages et situations, le spectacle explore cette émotion sous plusieurs angles, avec humour, sensibilité et parfois décalage. On écoute Antonin Paris, comédien marionnettiste, nous parler du spectacle.
Colérique, donc c'est un spectacle solo avec une marionnette. C'est un spectacle qui parle bien sûr de colère. Le point de départ du spectacle, c'est le manque de représentation de personnes trans au théâtre. C'est une représentation qui m'a manqué en général dans la vie et plus particulièrement au théâtre. Donc c'est pour ça que je voulais créer ce spectacle, donc qui parle de la colère justement, de pas se sentir représenté, de pas se sentir compris. Voilà, et le principe c'est qu'on est tous les deux avec ma marionnette et en fait on est tous les deux le même personnage à des âges différents et on va s'aider à comprendre et à traverser la colère qu'on ressent.
Colérique, spectacle proposé dans le cadre du festival Chapeau Melon et Bottes de Cuir et aussi dans le cadre du festival des Fiertés qui a lieu cette semaine un peu partout en Ardèche. Et donc c'est ce soir à 20h au lycée La Ségalière à L'Argentière. Et pour finir, demain, le Tip Top Comedy Club fait son retour au casino Circus de Vals-les-Bains. Et dans la salle du premier étage, trois humoristes se succéderont sur scène pour une soirée de stand-up proposée par Stand-up 07. Tanguy Noyer, Lucas Huezo et Lucien Gasparac partageront leurs observations du quotidien et leurs anecdotes devant le public. Les portes ouvriront à 19h et le spectacle débutera à 21h. L'entrée est fixée à 8€ avec une participation au chapeau à la fin de soirée pour rémunérer les artistes. La billetterie est accessible en ligne sur Billetweb. Et voilà, c'est fini pour notre petit tour des événements de cette fin de semaine. Et on écoute tout de suite « La femme et l'avenir de l'homme » de Jean Ferrat.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage, pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et n'éclate avec Aragon la femme et l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre ensemble, écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme.
Et vous êtes toujours sur Fréquencette et vous écoutez L'Onde Curieuse. Vous venez d'entendre le célébrissime ardéchois Jean Ferrat, La femme et l'avenir de l'homme. Et d'ailleurs, en ce mois de juin, la médiathèque d'Aubenas explore les questions d'égalité et de diversité. Et aujourd'hui, on va parler de l'exposition « Place aux femmes, les espaces publics ruraux ont-ils un sexe ?» actuellement présentée à la médiathèque d'Aubenas. Une exposition qui questionne la manière dont les femmes et les hommes occupent l'espace public, notamment en milieu rural, à travers des exemples très concrets ici en Ardèche. Et nous sommes du coup avec Séverine Mondino, chargée des projets culturels du CAUE de l'Ardèche, donc le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Et donc, avant même que l'exposition existe, il y a eu tout un travail de réflexion au CAUE de l'Ardèche. À quel moment cette question de la place des femmes dans l'espace public est devenue un vrai sujet pour vous ?
Pour nous, c'est devenu un vrai sujet en 2020, fin 2019, début 2020, où on souhaitait parler de lieux ordinaires en Ardèche et on souhaitait, on souhaitait travailler ça sous l'angle culturel, artistique et scientifique. Et on s'est demandé quel sujet on a envie de travailler. Assez spontanément, on est parti sur la question des femmes dans les espaces publics, parce que c'était des problématiques qui étaient très très présentes dans les grandes villes, à Paris, ça commençait à Lyon, ça commençait à Grenoble, et on se demandait pourquoi on n'en parlait pas dans nos territoires ruraux, pourquoi on n'en parlait pas en Ardèche.
Ok, et donc ensuite il y a eu donc, une première colloque avec plusieurs spécialistes, donc vous avez réuni des sociologues, des géologues, des urbanistes, des élus, même des artistes. Qu'est-ce qui en est sorti de cette première rencontre ?
Donc la première rencontre, c'était vraiment un colloque avec des personnes qui travaillaient en milieu urbain. Mais du coup, on avait déjà envie de savoir qu'est-ce qui se passait en milieu urbain au regard de la place des femmes dans les espaces publics. Ce qu'il en est sorti, c'est qu'il y a quand même vraiment un gros, gros problème sur la mixité dans les espaces publics. À la suite de ce colloque, on a eu envie du coup d'observer en Ardèche qu'est-ce qui se passait. Est-ce que si on n'en parlait pas, c'est que c'était un non-sujet ou est-ce que c'était plutôt un problème invisibilisé ? Donc on a lancé un appel auprès de communes d'Ardèche. Il y en a trois qui ont levé la main, Alba-la-Romaine, Saint-Julien-d'Intre et l'Alvat d'Ardèche. À qui on a proposé d'accueillir en résidence à la fois un scientifique, c'était souvent une scientifique, et soit des artistes, soit des spécialistes de l'aménagement, architectes ou paysagistes.
Donc c'était une résidence par village ?
Oui, c'était une résidence
donc
par commune.
Une question à chaque fois, un angle différent de ce sujet abordé dans chaque village.
C'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui en est ressorti justement de ces échanges avec, j'imagine aussi, les habitants, les habitantes de ces villages?
Oui, alors du coup, il y a eu vraiment trois sujets différents, comme vous le disiez. À Alba la Romaine, on a travaillé sur la cour d'école, donc on a travaillé avec les élèves. À Saint-Julien-d'Intre, on a travaillé sur un cheminement qui relie, c'était deux communes à la base qui venaient de fusionner, donc sur un cheminement qui reliait ces deux anciennes communes et qui passait, donc Saint-Julien-d'Intre, c'est une toute petite commune, mais ça a la spécificité d'avoir deux usines de textile. Mmh. Et donc le cheminement passait par ces deux usines, donc c'était travailler un petit peu la mobilité et puis aussi le city-stade qui venait d'être conçu. Et à l'Alvade d'Ardèche, ils avaient un pom-trad qui venait d'être inauguré aussi. Donc vraiment un aménagement pour les jeunes, pour le vélo, la trottinette, etc. De manière sans surprise, on va dire, on observe que dans les espaces publics, c'est beaucoup plus les hommes qui l'habitent ou les garçons quand il s'agit d'aires de jeu. Et dans les cours d'école, c'est aussi un peu pareil, même s'il faut reconnaître que l'école d'Alba la Romaine était quand même plutôt... il y avait un peu une meilleure mixité que ce à quoi on se serait attendu.
Mmh. Et d'ailleurs, à Saint-Julien-d'Intre, donc vous êtes intéressé particulièrement au city-stade et aux espaces de convivialité. Qu'est-ce qu'il en est ressorti dans ce village en particulier ?
À Saint-Julien-d'Intre, on a surtout collecté la parole des habitantes. Mmh. Et qu'on a rendu visible, c'est-à-dire qu'on a vraiment écrit en énorme et on a collé sur les murs la parole des habitantes qui constataient des inégalités, qui constataient des changements, qui parlaient aussi de comment c'était il y a 30 ou 40 ans. Enfin voilà, c'était un petit peu ça l'idée, c'était de rendre visible la parole des femmes dans l'espace public. C'était aussi... du coup, pour la rendre visible, il fallait l'écouter. Donc on a beaucoup questionné les femmes sur... de quoi elles auraient envie pour être bien dans ces espaces publics le long de ce cheminement. Ce qu'on a constaté, c'est que les femmes, souvent, au lieu de dire « moi, j'aimerais bien », elles disent « ah, mais pour les enfants, ça, ce serait bien. Ah, mais pour les hommes, ça, ce serait bien. » Et en fait, elles parlent très peu d'elles-mêmes. Donc, on a beaucoup insisté pour que ce soit leur parole à elles, pour qu'elles nous expliquent que, ouais, elles aimeraient bien aller au bord de la rivière, mais que l'aménagement pour elles, qui sont un peu âgées, c'était compliqué. Donc il fallait aménager l'accès pour qu'elles puissent s'y poser avec leurs voisines, avec leurs copines. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là, mais écouter les femmes en particulier et les rendre visibles.
Oui, parce qu'on s'intéresse à comment elles utilisent l'espace, comment elles l'utilisent, mais aussi comment elles utilisent le temps. Parce qu'il y a une phrase qui est ressortie donc, de cette exposition, c'est « Le temps fait partie des ressources précieuses que les femmes mettent beaucoup à disposition des autres. »
C'est ça. Et il y a une autre phrase, excusez-moi, je vous coupe. Il y a une autre phrase qui dit que les hommes occupent l'espace public, les femmes s'y occupent. C'est-à-dire qu'elles y sont toujours pour quelque chose et souvent pour quelqu'un.
Mmh. Et on le voit notamment sur les city-stades ou les lieux un peu tournés vers l'activité sportive, où il manque aussi des bancs, des endroits où justement les femmes ont plus l'habitude d'être... en tant qu'accompagnatrice, s'il n'y a pas de banc, peut-être qu'il y a moins de chances que ces espaces-là soient occupés par des femmes.
Oui, et en même temps, c'est dommage qu'elles soient toujours cantonnées à la marge des espaces publics. Mmh. Comment est-ce qu'une femme, elle pourrait un jour être aussi en plein milieu de l'espace public, même si elle n'a pas une activité survalorisée, comme une activité de ballon ou je ne sais quoi. Mais en fait, même pour une petite activité, elle devrait pouvoir être au cœur de l'espace public elle aussi. Et du coup, si on la met au cœur de l'espace public, ça fera venir... tous les garçons n'ont pas envie de jouer au foot, tous les garçons n'ont pas envie de jeux de ballon. Et ça offrirait plus de possibilités à tout le monde si les espaces, en fait, étaient moins dédiés à une activité, mais si elles étaient dédiées à plusieurs activités, si elles étaient dédiées à des activités modulables, si elles permettaient d'inventer aussi ce qu'on peut faire sur un espace. Là, souvent, les espaces, on leur assigne une activité. Mmh. Mais des fois, on pourrait les laisser un peu plus... libre à l'imagination, et on pourrait inventer des jeux dessus qui seraient souvent beaucoup plus mixtes et qui seraient... Mais voilà, c'est pas ça qui est le plus valorisé, et c'est ça qui manque.
Ok. Et aussi, donc, il y a une chose qui revient beaucoup, c'est qu'avant de proposer des solutions, il faut donc observer. C'est la première étape pour un vrai changement, c'est observer, et ce que vous avez dit aussi, écouter. Et... aussi pour, on prend des décisions et les personnes décisionnaires sont la plupart du temps, en grande partie, des hommes. Donc, est-ce qu'on a aussi ce besoin de créer des concertations publiques pour que la parole de tout le monde puisse être entendue et aussi avoir un pouvoir décisionnaire sur ce qui va être fait dans les villes, les espaces publics, etc.
Oui. Déjà, il faut prendre le temps d'observer, mais d'observer réellement et de se dire aussi que quand il y a un quart ou un tiers de femmes sur un city stade, un pump park, eh ben, on ne peut pas dire que c'est de la parité, parce que c'est jamais qu'un quart ou un tiers, ce n'est pas la moitié. Donc il n'y a pas parité, donc en tant qu'élu, on est passé à côté de quelque chose si on laisse faire ça. Donc il faut vraiment prendre ce temps d'observer, c'est uniquement pour prendre conscience qu'on a sûrement fait des progrès, mais on n'est pas encore, on n'a pas encore atteint vraiment l'objectif. Et pour atteindre les objectifs, effectivement, il faut que dans les réunions participatives, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup, de faire participer les gens de manière un peu plus large à la prise de décision. Et ben, il faut qu'on soit sûr qu'au moment où on lance cette action participative, il y ait 50% de femmes, comme dans une commune classique, ou 50% de filles, si c'est pour un aménagement... Pour des plus jeunes, mais on peut pas dire qu'on fait de la participation et qu'on a écouté les citoyens si du coup tout le monde n'est pas représenté.
Mmh. Et aussi dans l'exposition, on a Edith Marouet-Joule, je crois que c'est ça,
Marouet-Joule,
qui explique que les loisirs des garçons sont davantage valorisés socialement. Est-ce que ça joue aussi sur la manière dont les équipements sont pensés? Comme, oui, c'est ça, les city-stades, les...
Oui, la plupart des équipements sont créés... Enfin, on dit que le budget jeunesse, par exemple, il est consommé à 70% par des équipements qui vont être dédiés aux garçons. C'est quelque chose qu'on fait de manière totalement inconsciente, mais quand on crée un city-stade, quand on crée un terrain pour jouer au ballon, enfin, toutes ces choses-là, quand dans la cour d'école, on accepte que 80% de la cour d'école se soit dédiée au jeu de ballon, on crée cette disparité de fait. Et j'ai perdu le fil de la question.
que en fait, tout était fait autour des loisirs qui étaient valorisés socialement pour les garçons.
Les activités des garçons sont souvent pratiquées par les garçons, sont souvent des activités qui sont survalorisées. C'est à celles-là qu'on laisse le plus d'espace. Alors qu'en fait, ceux qui vont le pratiquer représentent 20-30% des citoyens ou des jeunes. Et effectivement, ça doit nous questionner, en tout cas.
Ça, on revient sur aussi les cours de récréation. Donc ça a fait l'objet pour d'une résidence donc pour à Alba la Romaine, c'est ça c'est Alba la Romaine.
Oui, c'est ça.
Où on voit en fait la cour de récréation comme un micro-espace sociétal. Donc c'est déjà un reflet de ce qui se fait dans les espaces publics.
Oui, et puis c'est là où on va apprendre, où on pourrait apprendre à laisser la place à d'autres activités que celles dont on a envie, à prendre la place aussi, arriver à s'imposer un peu mieux des fois, mais en sachant que du coup, c'est vraiment des questions quasiment politiques, c'est pas toujours aux filles de s'imposer quelque part, c'est à la société aussi de leur laisser la place, et c'est à la société d'apprendre aux garçons à faire de la place. À autre chose que ce dont ils ont envie. Et dans les cours d'école, ce qui est très intéressant à observer aussi, c'est la manière dont les filles et les garçons s'approprient l'espace différemment. Quand il y a des garçons qui jouent au ballon au milieu de la cour, une fille qui va vouloir aller aux toilettes, par exemple, elle va contourner complètement la cour. Alors qu'un garçon, même s'il ne joue pas au foot, lui, il a intégré que l'espace public, que la cour de récréation lui appartient aussi. Et ça ne va pas le déranger, lui, il va traverser le terrain qui est devenu un terrain de foot. Donc rien que ça, c'est des choses que tout petits, ils ont déjà conscientisé. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui se passent et qu'on observe.
L'impression aussi pour les femmes donc, et les filles de déranger presque.
C'est presque ça.
Et à Alba la Romaine, donc, les élèves ont pu aussi participer à des ateliers. Et ils ont dessiné leurs usages dans la cour. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça ?
Alors, du coup, on leur a demandé, au lieu de demander de quels équipements ils auraient envie, on leur a demandé quelles activités ils aimeraient pratiquer. Donc déjà, ça décale un petit peu le curseur, donc on a des choses très variées. À partir de ces activités qu'ils avaient mentionnées, on leur a demandé de se réunir en petits groupes et puis effectivement d'imaginer un équipement et de le positionner dans la cour qui pourrait répondre à l'activité qu'ils avaient envie de faire. Donc là déjà, on a observé que la mixité, ça commençait à devenir bancal parce que spontanément, les petits groupes qui se sont créés, c'était des petits groupes de filles ou des petits groupes de garçons. Et à l'étape d'après, on a demandé à deux groupes de s'associer. Donc, on a imposé le fait que, du coup, il y ait des filles et des garçons, et on leur a demandé de faire fusionner leurs projets en un seul équipement, dans un seul lieu de la cour. Donc là, ça n'a pas été facile, justement, pour les garçons de renoncer à un petit bout de... Donc, il y en avait qui avaient imaginé un parcours, voilà. Et de dire, je laisse un peu de place, ou d'arriver à faire que ce soit pour eux, par exemple, que les activités ne soient pas complètement cloisonnées entre elles. Voilà. Et du coup, on a travaillé avec une... personne qui travaille justement avec Edith Marouet-Jules et qui a créé un aménagement qui réunissait toutes les activités qui avaient été mentionnées par les enfants en un même gros cube, on va dire. Donc il y avait un endroit où on pouvait s'asseoir, il y avait des rideaux pour qu'on puisse se dissimuler un peu. C'était en pleine canicule, on avait installé quelque chose qui faisait goûter un peu d'eau pour qu'on puisse se rafraîchir. On pouvait y dessiner, on pouvait faire plein de choses avec ce cube. Et en même temps, il était positionné au milieu de la cour. C'est-à-dire que ça n'interdisait pas qu'on joue au ballon. Mais quand on jouait au ballon, il fallait faire un peu attention à cet objet qui était au milieu. Et ça changeait déjà rien que là un peu la donne.
Ok. Et oui, donc oui, c'est ça. Pardon. Vous montrez aussi que parfois, la non-mixité choisie peut aider. Alors, on a parlé quand on a préparé l'émission, ce qu'il y a la non-mixité choisie et la non-mixité subie. Quelle est la différence ?
La non-mixité subie, c'est celle qui fait que les filles, elles se retrouvent toutes seules à l'écart et que même un garçon qui n'a pas envie de jouer avec les autres garçons parce que les activités de ballon, ça ne l'intéresse pas, s'il va vers les filles, au début, on va lui dire « Ah, tu joues à des jeux de filles, petit à petit, on va l'assimiler à une fille. » Enfin, voilà, et il va avoir droit à des remarques pas très sympathiques. Donc, en fait, il va rester avec les garçons, il va jouer à des jeux qui ne l'intéressent pas, et les filles vont rester de leur côté. Et ça, voilà, c'est la non-mixité qui est subie, c'est celle que personne ne choisit, ni la plupart des garçons, ni du coup les filles. Et ce dont on se rend compte, c'est que petit à petit, quand les enfants grandissent... que notamment aussi c'est que quand ils font une activité sportive, c'est l'époque où il y a les équipes de filles et les équipes de garçons, ça correspond un peu à ça, mais même celles qui pratiquent des activités qui pourraient se faire en mixité, et là je pense on a eu l'exemple de jeunes filles qui pratiquaient l'escalade et qui à un moment donné ont demandé à leur professeur de sport d'avoir un temps qui était dédié qu'aux filles, parce que du coup les garçons étaient toujours dans la compétition, celui qui allait le plus haut, celui qui allait le plus vite, et qu'en fait, elles, ça ne correspondait pas du tout à leur manière de pratiquer l'escalade. Donc, elles ont demandé un temps dédié. Et la non-mixité, en fait, qui est choisie, ça peut aussi, quand on crée un city-stade, aux filles qui auraient envie d'aller sur le city-stade, sur le pump track, de pratiquer une activité, c'est difficile pour elles d'être confrontées directement aux garçons et d'apprendre en présence de garçons. Donc, des fois, juste qu'il y ait des petits créneaux horaires qui permettent aux filles... de prendre confiance et après de participer avec les autres sans aucun souci, c'est important et c'est des choses qu'il faut arriver à respecter justement pour donner l'occasion à ces filles d'aller plus loin. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que la finalité, c'est pas que toutes les filles se mettent à pratiquer des activités qui sont survalorisées comme les jeux de ballon, comme le pump track. C'est à la fois de donner la possibilité à celles qui en ont envie de le faire, mais c'est aussi que celles qui n'en ont pas envie, qui ont envie de faire autre chose, trouvent leur place dans l'espace public. Et pour moi, la mixité et le fait d'aller dans la bonne direction, c'est prendre en compte ces deux aspects-là.
Et oui, il y a aussi toute cette idée de gender mainstreaming, ça. C'est-à-dire intégrer la question du genre dans les politiques publiques. Comment aujourd'hui les collectivités, est-ce qu'elles s'emparent de ces sujets, est-ce qu'elles commencent à l'intégrer ?
En fait, normalement, c'est une obligation légale que de mesurer l'impact de la politique publique qu'un élu met en place au regard des publics, et notamment au regard du genre, des hommes, des femmes, des garçons ou des filles. Mais du coup, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Donc en Ardèche, ça correspond à très très peu de communes. et ça correspond même pas à toutes les communautés de communes. Donc c'est un sujet qui est complètement invisibilisé chez nous parce que justement il n'y a pas cette obligation-là.
Oui, donc d'où cette question des espaces publics ruraux ont-ils un genre, un sexe ça s'applique aussi avec cette loi qui ne s'applique pas à tout le monde et pas donc au territoire. Parce qu'on parle aussi de 11 millions de femmes qui habitent dans des milieux ruraux, donc ce n'est pas rien.
C'est 11 millions de femmes invisibilisées, oui.
Donc finalement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, si on peut en faire peut-être une petite conclusion de cette exposition, peut-être ce serait de dire que ces espaces publics ne sont pas neutres, mais tendraient à le devenir.
On espère en tout cas. Alors devenir neutre, non, mais vraiment qu'ils accueillent tout le monde. Et du coup, quand on est un élu, de se rappeler que ça suffit pas de dire que l'espace il est ouvert à tout le monde et que si les femmes n'y vont pas, c'est qu'elles n'ont pas envie. Là, quand on est un élu, je pense vraiment que la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que les femmes et les filles aient aussi envie d'être là et de changer de point de vue pour qu'on se rencontre, pour qu'on se retrouve aussi sur un même espace.
Et favoriser aussi les espaces de discussion et de partage. Eh bien, voilà, merci beaucoup à Séverine d'être venue nous parler de cette exposition qui est toujours visible à la médiathèque d'Aubenas. Donc, je le rappelle, c'est Place aux femmes, les espaces publics ruraux ont-ils un sexe? Et elle sera visible donc jusqu'au 20 juin à la médiathèque d'Aubenas. Et une rencontre est prévue avec le CAUE de l'Ardèche le 9 juin à 18h et autour donc de toutes ces questions-là. Et donc voilà, merci beaucoup Séverine.
Merci à vous.
Et merci Sylvain à la technique. Et en attendant, sur Fréquence 7, vous pouvez toujours retrouver à 15h vos messages sur le Telex, à 17h la rediffusion de cette onde curieuse, à 19h éclectrique, à 21h état brut. Et nous, on se retrouve lundi pour parler de la sortie du nouvel album de Rouliette Ruse. Ciao.